Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. L'état de l'Arakan en Birmanie, de nouveau bouclé par l'armée, précision dans un instant de Rangoon de Sarah Bakaloglou. Parmi les priorités de l'Union africaine, dont le sommet annuel se déroule à Addis Abeba, la Libye, avec l'organisation d'un forum de réconciliation, correspondance de Karine Franck de Radio France Internationale. L'Iran place en orbite un satellite d'observation scientifique au lendemain d'un discours du guide suprême censé galvaniser l'armée. Commentaire du chercheur Karim Pakzad. Il ne manque ni de bravoure ni d'agilité sans jamais figurer au palmarès des Oscars. Reportage dans cette édition sur les cascadeurs qui veulent sortir de l'ombre. Et puis la face cachée du globe de ce dimanche, signée Nadine Epstein, se tourne vers l'Amérique latine avec une escale au Nicaragua. L'état Rakhine dans l'ouest birman est coupé du monde. Depuis mardi dernier, les autorités ont verrouillé l'internet pour officiellement lutter contre les fausses nouvelles. Insupportable argumentaire, selon les associations de défense des droits de l'homme qui craignent le pire. Déjà théâtre d'un nettoyage ethnique commis par la Tatmadaw, l'armée nationale, en 2016 et 2017 à la suite des attaques de l'armée du salut des Rohingyas de l'Arakan, qui ont chassé au moins 800 000 personnes vers le Bangladesh. L'état Rakhine renoue avec la guerre à huis clos. Sarah Bakaloglou nous appelle de Rangoon.
La décision de couper Internet n'a pas été annoncée par le gouvernement birman, mais par un des opérateurs téléphoniques à qui les autorités ont évoqué des raisons de sécurité et d'intérêt public. En juin dernier déjà, la connexion avait été suspendue dans 9 districts de l'état de l'Arakan et de l'état de Chin, puis autorisée de nouveau, mais seulement pour 5 d'entre eux. Une région déjà très isolée, puisque l'accès aux journalistes, aux ONG et à l'ONU est très difficile. Des violations des droits de l'homme y sont régulièrement commises, notamment par l'armée, et sans Internet. Internet, témoigner de la situation sur place devient impossible, dénonce la société civile birmane. Car depuis plus d'un an, les combats se sont intensifiés entre les militaires birmans et une rébellion locale, l'Arakan Army. La guérilla se bat au nom de l'ethnie arakanaise bouddhiste, qu'elle juge discriminée par le pouvoir central. L'armée birmane a subi de nombreuses pertes et la rébellion, qui revendique plus de 7000 soldats, a multiplié les enlèvements, notamment de policiers birmans. Enfin, la popularité de l'Arakan Army parmi la population de la région est forte. Un défi de taille pour la Birmanie qui subit la pression aussi de la communauté internationale. Le pays est poursuivi devant la Cour internationale de justice pour génocide contre la minorité des Rohingyas en août 2017 dans cette même région. Le tribunal a demandé à la Birmanie de protéger la minorité musulmane vivant encore dans l'état de l'Arakan. Une demande alors que le mois dernier, l'annonce de la mort de 2 femmes et 4 enfants Rohingya à cause des combats était relayé sur Internet.
Le coronavirus, le dernier bilan communiqué par les autorités chinoises, fait état de plus de 810 morts et de 37 200 contaminations. Toutefois, l'Organisation mondiale de la santé dit voir une bonne nouvelle dans la stabilisation du nombre de nouvelles contaminations. Quantité de désistements au salon aéronautique de Singapour. 70 exposants ont annulé leur participation en raison de l'épidémie. Et puis des milliers de personnes confinées à bord d'un navire de croisière à Hong Kong pendant 5 jours viennent tout juste d'être autorisées à débarquer, les 1800 membres de l'équipage ayant été testés négatifs. Le sommet annuel de l'Union africaine à Addis Abeba, il y a 7 ans, les dirigeants du continent avaient promis de mettre un terme à toutes les guerres en Afrique d'ici à 2020. Même si des progrès ont été enregistrés en Centrafrique ou au Soudan, la situation se détériore au Cameroun, au Mozambique et du Sahel à la Somalie, la guerre fait rage. L'organisation africaine souhaite d'ailleurs s'affirmer sur plusieurs dossiers et peser davantage dans la résolution du conflit en Libye, pays plongé dans le chaos depuis 2011. Addis Abeba, Karine Franck de RFI.
Faire taire les armes, c'est le thème de ce sommet, et cela dit tout des crises du continent. Actuellement, la crise libyenne suscite la tension. L'Union africaine propose d'organiser un grand forum de réconciliation, un forum qui ne se limite pas aux seuls belligérants, comme le fait actuellement l'ONU, mais qui puisse intégrer les partisans de l'ancien régime, les tribus et la société civile, un forum qui pourrait se tenir à Alger, comme le propose le président Tebboune, ou à Addis, comme le préférerait le président Sassou Nguesso. Autre sujet important, la lutte contre les groupes djihadistes au Sahel. Ici, les questions d'un appel à la solidarité des pays africains. Un sommet extraordinaire sera organisé en mai prochain, à Pretoria, à l'initiative du président sud-africain Ramaphosa. Quant à la question de l'intégration économique, le président nigérien doit présenter un rapport intermédiaire sur la zone de libre-échange continentale, la ZLECAF, lancée en grande pompe en juillet dernier à Niamey, mais qu'il faut maintenant mettre en œuvre progressivement. Les chefs d'État devraient choisir lors de ce sommet qui sera le premier secrétaire général de cette grande zone de libre-échange.
En Afghanistan, un homme portant un uniforme de l'armée régulière ouvre le feu et tue deux soldats américains dans l'est du pays. Cette attaque dite de l'intérieur a également fait 6 blessés. Le chef de l'Agence spatiale nationale iranienne y voit une nouvelle étape pour son pays. L'Iran s'apprête en effet à lancer un nouveau satellite d'observation scientifique. Et Morteza Berari de s'empresser d'ajouter « Toutes nos activités dans le domaine spatial sont transparentes » et de répondre d'avance à des soupçons américains, entre autres. Il est intéressant de souligner que la République islamique fait publicité de son aventure scientifique spatiale au lendemain d'un discours du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, qui hier appelait l'Iran à devenir suffisamment forte pour contrer les menaces de l'ennemi et éviter une guerre. Commentaire de Karim Pakzad, chercheur à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques.
La seule différence qu'aujourd'hui, par rapport à ce discours qui est assez traditionnel en Iran depuis plusieurs dizaines d'années, c'est qu'aujourd'hui, le monde entier constate que les Iraniens, quand même, ils ont pu mettre en place cette industrie. Notamment, nous, depuis 2 ans, nous sommes témoins de l'usage des missiles par les Iraniens dans différentes affaires. Notamment, il y a 2 ans, ils ont lancé des missiles contre une réunion des partis kurdes iraniennes qui avaient eu lieu sur le territoire irakien. Tout cela montre que l'Iran maîtrise désormais l'industrie des armements. Khamenei, hier, a également informé, révélé que l'Iran est désormais capable de construire des avions militaires. Cela montre que l'Iran, en fait, a tiré la conclusion de la guerre avec l'Irak. Aucune puissance étrangère ne vendait officiellement des armements à l'Iran. Et depuis cette date-là, voilà, il y a une course contre la montre pour que l'Iran accède à des armements qui deviennent, dans cette région, une puissance militaire.
Karim Pakzad, chercheur à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, sollicité par Lina Taghi. En première ligne, en tournage et jamais à l'honneur, les Oscars récompensent nombreux métiers du cinéma, mais continuent d'ignorer les professionnels de la cascade, pourtant essentiels dans des films américains toujours plus spectaculaires. À quelques heures de l'ouverture de la 92e cérémonie des Oscars, attardons-nous sur les exclus du palmarès, qui plus est quand Brad Pitt pourrait bien décrocher sa première statuette pour son rôle de cascadeur dans Once Upon a Time in Hollywood. C'est un reportage à Los Angeles de Loïc Pliala.
Daniel apprend à Courtney les rudiments de la bagarre hollywoodienne. Comment frapper sans toucher et laisser l'angle de la caméra créer l'illusion. Cascadeur sur le film Dunkerque, Daniel pratique un métier de l'ombre qui reste à la porte de la cérémonie des Oscars.
Qu'on voit notre visage ou pas, les cascadeurs ont besoin de reconnaissance parce qu'ils s'occupent des cascades, mais aussi de la sécurité de tous sur le plateau.
Une Batmobile poussiéreuse, une voiture de la police de New York coupée en deux. Bienvenue à Stunts Unlimited au nord de Los Angeles. C'est là que Jack Gill et ses équipes préparent les courses-poursuites des plus grosses superproductions hollywoodiennes comme la saga Fast and Furious. 29 ans que Gill milite pour une catégorie aux Oscars, 29 ans que l'Académie lui dit non.
Peut-être qu'il y a une négativité profondément ancrée à l'Académie vis-à-vis de notre industrie. Ce n'est pas qu'on veut une statuette, on veut juste que nos pairs nous disent « Oui, on était dans les tranchées avec vous, 8 mois durant, on veut être vus comme les autres. »
T'es acteur ?
Non, je suis cascadeur.
Brad Pitt est favori à l'Oscar du second rôle pour sa prestation dans Once Upon a Time in Hollywood. Il y joue un cascadeur, alors Jack Gill espère que la star se servira de cette tribune pour inviter l'Académie à revoir sa position.
Il est presque 12h40 et vous écoutez le journal de France Culture et la face cachée du globe. Bonjour Nadine Epstein.
Bonjour à vous. Après le discours du président américain sur l'état de l'Union, défavorable à Cuba et au Venezuela, la Russie a apporté son soutien aux deux pays en envoyant sur place son ministre des Affaires étrangères cette semaine. La première étape du voyage latino-américain de Sergueï Lavrov a été de se rendre sur la tombe de Fidel Castro décédé en novembre 2016. Le commandante reste un exemple de vrai dévouement à la patrie et à son peuple, a déclaré le diplomate russe. Puis Sergueï Lavrov a rencontré les présidents cubains puis vénézuéliens à qui il a promis un renforcement des liens bilatéraux et régionaux. Cette semaine également, la tournée européenne du président argentin. Alberto Fernandez recherche des appuis pour ses négociations avec le Fonds monétaire international sur l'endettement de 311 milliards de dollars de l'Argentine, alors que le taux de pauvreté avoisine les 40%. L'Italie, le Vatican, l'Allemagne, l'Espagne et la France lui ont promis leur soutien. Une mission du FMI est attendue à Buenos Aires le 12 février. 292 personnes venues du Guatemala, du Honduras, du Salvador et du Nicaragua et entassées dans deux camions ont été découvertes dans l'état mexicain du Chiapas. Elles avaient chacune donné aux passeurs 100 000 pesos, 4 800 euros pour traverser le Mexique jusqu'à la frontière avec les États-Unis. Le président mexicain Obrador, menacé par le président américain Trump, bloque avec 26 000 militaires à ses frontières les émigrés. Ces femmes, ces hommes et ces enfants fuient leur pays pour échapper à la violence et à la pauvreté. On parle beaucoup des 4 millions d'exilés vénézuéliens, mais très peu des 80 000 nicaraguayens. L'insurrection et la répression qui frappent le Nicaragua depuis 2018 a fait aussi plus de 300 morts, des centaines d'arrestations, de disparus et d'expulsions. Femmes, paysans, étudiants, hommes d'église et intellectuels protestent contre le régime du président Ortega. Ce sont ces témoins nicaraguayens que Daniel Rodriguez Moya a filmés. Le réalisateur espagnol, fin connaisseur de la révolution sandiniste, était de passage à Paris cette semaine pour présenter son documentaire « Une patrie libre pour vivre ».
Vivir en primera persona, algo que llevaba mucho tiempo esperando.
Ce qui m'a marqué le plus, c'est d'avoir vivre de première main et d'être là et de voir des choses que je voyais arriver, une révolution pacifique, comme Gandhi. Et pour moi, de voir tous ces jeunes avec cette honnêteté et cette envie de Nicaragua meilleur, de voir cette révolution pacifique, c'est ce qui m'a touché le plus. Ce que j'ai pu observer, c'est que petit à petit, les soutiens légitimes à Ortega a diminué avec les années. Et aujourd'hui, même ceux qui sont pour Ortega, on peut voir, ne sont rien d'autre que des victimes d'un système clientéliste. Et Ortega a bien su profiter de cette répression et c'est vrai que les dialogues a oxygéné Ortega parce que quand il a eu les dialogues, c'était un moment où il était contre les murs et aujourd'hui c'est que la répression qui le tient au pouvoir. Donc moi j'ai l'espoir que l'Union européenne va finalement sanctionner les gouvernements d'Ortega, que les sanctions vont venir et qu'ils s'en serviront pour asphyxier ces gouvernements et qui se nourrit de l'argent, des blanchissements d'argent. J'ai honte, comme espagnole, de voir que Laureano Ortega, fils de Daniel Ortega, puisse se balader dans les villes en Espagne et que le gouvernement ait permis son entrée sur le territoire espagnol. J'ai honte et j'espère que cela va changer.
Ver en las calles de Madrid a Laureano Ortega, el hijo de la familia dictadora de Nicaragua, y que España le permita la entrada. Eso no puede ser.
Daniel Rodriguez Moya a reçu le soutien de la nicaraguayenne Bianca Jagger, avocate, actrice, épouse passée du chanteur des Rolling Stones. Elle est venue de Londres pour dénoncer le pouvoir en place au Nicaragua.
Je me rends compte que l'obstacle, c'est que Daniel Ortega et son régime meurtrier a réussi à faire, à démanteler toutes les institutions légales au Nicaragua, ne seront pas faciles à se remettre, à les reconstruire. Et parce qu'il règne un état de terreur, et parce qu'au Nicaragua, ce n'est pas un état des droits.
Comment expliquez-vous que, finalement, la communauté internationale se désintéresse un peu de ce qui se passe au Nicaragua?
Nous sommes un tout petit pays, un peu plus de 6 millions d'habitants. Et nous n'avons pas de pétrole. Et vous avez les gens aussi s'acharnent à cette image romantique de la révolution sandiniste parce qu'ils ne regardent pas la réalité. Ce n'est pas un pays idéal, ce n'est pas une démocratie, ce n'est pas même un pays de gauche parce que c'est un pays néolibéral. Daniel Ortega est un traître, c'est un meurtrier. Daniel Ortega et Rosario Murillo, et ils ont un pouvoir énorme, une armée, une police, les paramilitaires, n'est-ce pas? Et où il y a tellement de corruption, tellement de contrôle. Ça me rend profondément triste parce que je sais que nous ne sommes pas tout près d'obtenir un pays où il règne la démocratie, la liberté et la justice.
Merci de nous suivre. À la semaine prochaine.
Merci à vous, Daniel Epstein, pour cette face cachée du globe. Quelques mots de la météo de la France métropolitaine pour l'après-midi. 35 départements, la moitié nord, placés en alerte orange en raison d'une tempête qui va générer de fortes rafales de vent dès le milieu de l'après-midi. Des zones particulièrement ventées, 100-120 km/h, se situeront sur les bords de la Manche. Et entre les Hauts-de-France, les Ardennes, puis le Nord-Est, la nuit suivante avec localement 130 km/h sur la côte d'Opale et le littoral de Seine-Maritime, ainsi que le relief du Nord-Est en soirée, de petites ondées sur le Nord-Est et vers le Massif central. Ce journal a été préparé avec François-Charles Domergue, à la technique, lise-le.